France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. En 1982, Rémy Stricker et Jérôme Spiquet nous emmenaient à Vevey, au bord du lac Léman, chez un grand artiste, le ténor suisse Hugues Queneau. Cette année-là, Hugues Queneau avait fêté ses 80 ans et était bien loin d'avoir tiré sa révérence. Dans cet entretien consacré à la mélodie française, un répertoire dans lequel il excellait, Hugues Queneau confiait le plaisir qu'il avait à donner ses masterclass et nous faisait partager quelques-unes de ses trouvailles pédagogiques. Nous voici donc, grâce aux archives, chez Hugues Queneau, en Suisse, en 1982.
Les grands vaisseaux que la houle incline en silence.
Vous aimez mieux faire une aimée qu'on n'entende pas les oiseaux.
Ah, c'est pas les oiseaux, c'est la pluie.
Ah, la pluie, ça s'entend vraiment, ça s'entend vraiment.
Oui, oui, parce que vous êtes quand même assez loin du microphone, en fait.
Hein. Oui.
Ah. Il pleure dans mon cœur.
Hugues Queneau, avec Jacqueline Blancard au piano, chantait Spleen de Forêt.
J'ai ignoré Duparc pendant très longtemps et tout à coup, sur mon déclin, j'ai commencé... Eh bien, alors Duparc, il y en a très peu, vous comprenez? Et alors on entend éternellement un choix parmi ces quelques 12 ou 13 qu'il y a, toujours les mêmes 5 ou 6, toujours chantés par des dames qui donnent des concerts. Alors... Je me suis dit, ben non, tant pis, il y a autre chose, il y a des choses moins connues. Et puis tout à coup, quand j'ai eu une soixantaine d'années, je me suis dit, ou même après, je me suis dit, au fond, c'est du parc, ils sont superbes, et je vais les travailler. Et j'ai commencé à les chanter beaucoup dans les derniers concerts que j'ai faits. Alors.
Et vous n'avez pas enregistré tous les
concerts? J'en ai laissé de côté deux que je n'aime pas, qui sont d'ailleurs pour bariton, La Vague et la Cloche, qui est un texte effroyable de François Copé.
Que Duparc n'aimait pas d'ailleurs.
Ah ben, ça me fait plaisir, je ne le savais pas, mais ça me fait plaisir, parce que vraiment, c'est grandiloquent. Et puis un autre qui s'appelle Testament, que je n'ai jamais chanté parce qu'il est trop bas, etc. Et je crois pas
que c'est aussi un peu emphatique.
Très emphatique. Et puis j'ai laissé La Sérénade Florentine, je ne sais pas pourquoi, que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas chanté. Et puis le Pégouze fait la guerre, évidemment, et qui est un peu une ressuscité des autres et qui est pour dame. Alors je n'ai pas chanté non plus, mais tout le reste, oui. Je leur ai trouvé l'autre jour quelque chose qui les a fait bien rire. C'était, je me rappelle, dans un du parc, Fidilé, où il y avait 8 croches, et tout à fait égales dans l'écriture sur le cahier, qui étaient « Et les oiseaux rasant de l'aile la colline ». Vous savez, je vous rappelais cette phrase. Et la dame m'a dit « Et les oiseaux rasant de l'aile la colline ». Alors je lui ai dit « Écoutez, c'est très joli, mais personne ne va trouver que ces oiseaux volent bien. Ils ne battent pas des ailes. Ils sont... Quand on a 8 croches qui sont les unes après les autres, on les fait rythmiquement comme elles doivent être, mais on peut faire un très joli legato et tout de même avoir en dessous une prononciation des paroles et surtout des syllabes qui leur donne à chacune l'importance qu'elles ont dans le texte. Et si vous récitez ça, vous direz « Et les oiseaux rasant de l'aile la colline ?» Mais vous ne direz pas « Et les oiseaux rasant de l'aile la colline ?» Vous comprenez ? Alors, elle n'avait pas très bien compris ça, et je lui ai dit « Je vais vous prendre un exemple. Prenez 8 petits pois. Et mettez ces 8 petits pois au bord du piano. Et regardez-les de loin, bien ces 8 petits pois qui sont exactement les mêmes. Mais si vous les regardez tout près, et si vous prenez un microscope, et si vous prenez une balance de pharmacien, vous verrez que ces petits pois ont des petites différences de couleur, de poids, 1 ou 2 mg, etc. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut traiter vos croches. Il y en a qui sont importantes, il y en a qui le sont un peu moins. Et il y a des croches qui sont un peu plus jaunes que d'autres, et d'autres un peu plus vertes. Et c'est comme ça qu'il faut les traiter. Toute la classe a commencé à bien rire, mais je me suis dit, bien, je vais me resservir de cette chose parce que ça illustre assez bien ce qu'il faut faire avec un texte.
Alors vous c'est du parc maintenant. Monsieur Mallet va chanter la chanson triste du parc.
Dans ton cœur d'or un clair de lune, clair de lune d'été.
C'est de nouveau la paix extraordinaire.
Et pour fuir la vie impartine,
et puis écoutez, je vais me permettre de vous dire quelque chose, je ne donne pas de leçon de chant, mais je voudrais que quand vous dites importune, il s'y glisse quelque chose d'un petit peu nasal, qui n'est pas tellement joli. Importune, ah oui. Partune, oui. Tune, je me noirai. Et je crois que là, vous pouvez prendre peut-être un tout petit peu de voix mixte, de voix un peu couverte, j'allais dire de voix mauvais goût. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je voudrais cette atmosphère de rêve, cette atmosphère, vous savez, comme un tableau ancien. Vous savez ce joli tableau où on voit Diane qui arrive sur Endymion, qui est couchée dans l'herbe, et il y a des arbres des deux côtés, et la lune, et on voit Diane qui arrive. Il y a cette atmosphère agreste. Mais est-ce que vous ne croyez pas que vous ne devriez pas le prendre un tout petit peu plus lent? Un tout petit peu plus, parce qu'il me semble que ça a l'air un petit peu trop pressé, hein. Pas tout à fait assez de cette atmosphère de nuit d'été avec un peu de brouillard lunaire. C'est un petit peu trop urgent. Moi, je crois que vous pourriez l'étaler un tout petit peu plus et alors vous ne seriez pas obligé. Vous faites des très jolis fortissimos, mais il y en a un peu trop, je trouve. Oui. Je trouve que ça doit être un petit peu plus rêveur, un peu plus feutré aussi, comme s'il y avait un peu une sourdine sur un violon. La vie
Hugues Queneau, en 1980, à 78 ans, accompagné par Rose Dobos, chanson triste.
C'est Duparc qui a habité longtemps à la Tour de Paix.
À la Tour de Paix, je me souviens d'avoir vu Duparc.
Vous l'avez
vu? Un vieux monsieur, quand j'étais enfant, un vieux monsieur qui marchait avec une canne, et on me dit, c'est toujours, tu vois, c'est le compositeur Duparc. C'est un vague souvenir, ça ne peut pas vous l'écrire.
Il devait être assez terrifiant, parce qu'il était très très malade.
Il a été très malade, je crois qu'il a commencé par une maladie imaginée, pour commencer, qui est finalement devenue réelle.
Oui, c'est un beau cas de psychosomatique.
C'est une chose qui m'intéresse beaucoup, et je dois dire qu'on ne se rend pas compte à quel point on en profite soi-même, des classes qu'on donne aux gens. En somme, ce sont des cobayes. Qui ne sont pas toujours intéressants, mais même quand ils ne sont pas intéressants, on en profite pour... c'est un petit peu... On se sent un petit peu une âme de vampire, vous savez. Et on suce le sang des pauvres élèves qui, tout à coup, par leur faute répétée, vous dites, tiens, si on fait ça si mal, c'est qu'on peut aussi le faire bien. Et on arrive à faire des progrès soi-même. Je regrette beaucoup de ne pas avoir donné des classes plus tôt. J'en ai donné un peu, mais quand j'étais jeune, on voulait toujours me faire donner des classes de technique que j'ignore complètement. Et ça ne m'a jamais rien appris. Tandis que des classes d'interprétation m'ont appris beaucoup. Et je suis persuadé que, tout en perdant certaines notes de ma voix, que je peux chanter des choses avec plus de connaissance des textes, par exemple, maintenant, parce que j'ai donné des leçons.
Debussy, l'échelonnement des haies.
J'ai une technique, vous savez, à force de chanter, les muscles finissent par se mettre dans une position instinctive. Et ça donne l'idée aux gens qu'on a une technique qu'on sait très bien, mais c'est impossible de dire comment on fait ou expliquer une chose. On ouvre la bouche, c'est pour ça que je dis très souvent à mes élèves, pour vous mettre en voix, ne faites pas d'exercice, prenez le premier journal venu et improviser une mélodie en disant « La concierge du numéro 25 à la rue, quelque chose, a assassiné son mari hier. »
Ukraino bon. Francis Poulenc.
Un gros bon ours que j'aimais beaucoup et avec qui j'ai fait peu de musique, malheureusement. Il ne m'a accompagné qu'une fois dans un concert.
Au bord de l'île, on voit les canaux vides qui s'entrecognent et maintenant ni le dimanche ni les jours de la semaine ni les peintres ni mon passant se promène bras nus sur leur canot avec des femmes à grosse poitrine et bêtes comme choux. Peu
petit bâton, vous me faites bien de la peine.
Quitter un pays morose pour Paris, Paris joli, qu'un jour dut créer l'amour. Ah, la charmante chose, quitter un pays morose pour Paris. Paris joli, quitter un pays morose. Charmante chose. Jeune homme de 20 ans qui a vu des choses si affreuses, que penses-tu des hommes de ton enfance? Tu connais la bravoure et la ruse, tu as vu la mort en face, plus de 100 fois. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie. Transmet près de toi. Tu as de la décision. Il est 17 heures et tu saurais mourir, sinon mieux que tes
mélodie de Francis Poulenc sur des textes d'Apollinaire, Grenouillère, Voyage à Paris, Bleuet, par Hugues Queneau au piano Poulenc lui-même. C'était en 1954.
Je le voyais beaucoup à Paris parce que je le voyais surtout chez Marie-Blanche Polignac et puis quelquefois chez Nadia et beaucoup chez lui parce qu'on était très copains, on se tutoyait, on s'aimait beaucoup, je l'aimais énormément. Il ne m'a jamais rien dédié et ça a été tout à fait en somme extra-musical. Mais je le voyais chez des amis et puis on rigolait. Enfin, il avait beaucoup d'esprit, il était très drôle. Et sa drôlerie ne l'empêchait pas d'être très sérieux. C'est une chose remarquable que Poulenc, qui a été très religieux à la fin de sa vie, surtout, et était un garçon qu'on n'aurait pas, on ne l'aurait pas du tout cru très religieux quand on l'entendait rigoler, dire des insanités quelquefois. Non, je l'aimais beaucoup.
Madame Stacha dit ses filles, ce n'est pas trop, mais c'est assez. La jolie petite famille, vous avez dû, vous avez dû la voir passer. Le 20 décembre, on les appelle. Que voulez-vous, mesdemoiselles, pour votre Noël? Voulez-vous une boîte à poudre? Voulez-vous de petits mouchoirs? Un petit nécessaire à coudre? Un perroquet sur son perchoir? Voulez-vous un petit ménage pour qu'on se traite les doigts? Un pompier qui plonge et qui nage? Un vase à fleurs presque chinois? Mais les 17 enfants en cœur ont répondu: non, 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 non. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons une petite sœur, ronde et chauffée comme un ballon, avec un petit nez farceur, avec les cheveux blonds, avec la bouche en cœur. Nous voulons une petite sœur. L'hiver suivant, elles sont 18, ce n'est pas trop, mais c'est assez. Noël approche et les petites sont bien en bas, bas, sont bien en bas, bas, sont vraiment bien embarrassées. Madame Stache les appelle. Que voulez-vous, mesdemoiselles, pour votre Noël? Voulez-vous un mouton qui frise? Voulez-vous un réveil matin? Un coffret d'alcool dentifrice? Trois petits coussins de satin? Voulez-vous une panoplie de danseuses de l'opéra? Un petit fauteuil qui se plie et que l'on porte sous son bras? Mais les 18 enfants en cœur ont répondu: non, 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 non. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons une petite sœur, ronde et chauffée comme un ballon, avec un petit nez farceur, avec les cheveux blonds, avec la bouche en cœur. Nous voulons une petite sœur. Elles sont 19 l'année suivante, ce n'est pas trop, mais c'est assez. Quand revient l'époque émouvante, Noël va de nous, nous, Noël va de nous, nous, Noël va de nouveau passer. Madame Stache les appelle. Que voulez-vous, mesdemoiselles, pour votre Noël? Voulez-vous des jeux excentriques avec des piles et des moteurs? Voulez-vous un ours électrique, un hippopotame à vapeur pour coller des cartes postales? Voulez-vous un superbe album, une automobile à pédales, une bague en aluminium? Mais les 19 enfants en cœur ont répondu: non, 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 non. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons deux petites jumelles, deux sœurs exactement pareilles, deux sœurs avec des cheveux blonds. Leur mère a dit: c'est bien, mais il n'y a pas moyen. Cette année, vous n'aurez rien, rien, rien.
C'était au cours du concert anniversaire de ses 50 ans de carrière en 1978. Hugues Queneau jouait « Nous voulons une petite sœur » de Francis Poulenc sur un texte de Jean Nohain, au piano Nikita Magaloff.
Quand on avance en âge, on fait beaucoup plus attention aux textes et on peut, les textes français se prêtent à être travaillés beaucoup plus que les textes allemands.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Peut-être parce que je sais l'allemand moins bien que le français, mais quand on chante, maintenant quand des élèves à moi chantent du Schubert, je sais leur dire de changer leur façon de comprendre un texte. Mais j'ai toujours trouvé que les textes français étaient plus transparents, plus importants, avec la, surtout les textes de cette époque impressionniste que je chante beaucoup, n'est-ce pas ? Dans des choses très modernes, ça n'a plus aucune importance. Et dans la musique très ancienne non plus. Avec Rameau et Lully, si, mais quand on chante des choses très anciennes, et surtout des choses strophiques, où les temps faibles arrivent à la place des temps forts, quelquefois, et il faut s'en accommoder, c'est assez difficile. Mais avec la musique bien écrite, quand on chante la musique mal écrite, même par de bons compositeurs, qui n'avaient pas cette espèce de sixième sens de du texte, on est obligé d'adapter, de faire des muettes sur des temps forts. Enfin, c'est des haies à sauter qui sont difficiles à faire. Tandis qu'avec Fauré, il y a quelquefois des choses pas bien. Tandis qu'avec Debussy, c'est toujours parfait.
Oui, parce que les textes sont généralement meilleurs aussi.
Ah, oui.
Je dis généralement.
Mais vous savez, une chose dont je suis persuadé, j'avais un ami, pour ne pas le nommer, c'est Doda, qui disait toujours « impossible de chanter cette mélodie, le texte est trop mauvais ». Si on aime la mélodie, il faut le chanter quand même, et il faut le chanter avec autant d'attention qu'on donnerait à un bon texte. Et on arrive à faire croire aux gens que le texte n'est pas si mauvais. Parce que les gens n'y pensent plus. Quand ils vous entendent prononcer les choses avec l'intérieur de votre imagination, avec l'idée qu'on est en train de chanter un chef-d'œuvre, il faut chanter quelque chose de mauvais, comme si on chantait un chef-d'œuvre. C'est la seule chose pour le sauver. Ou bien pas le chanter du tout. Oui. Mais c'est dommage, quelquefois, à cause de la musique.
C'est très vrai pour certaines mélodies de Fauré.
Oui, très vrai, il y a des choses impossibles. Mais alors, il y en a qui sont tellement mauvaises qu'on ne les chante pas. Et puis alors, surtout, que Fauré a aussi fait sur de beaux textes des mauvaises mélodies, quelquefois. Par exemple, il n'a jamais réussi avec Baudelaire. Ou il a si bien réussi avec Verlaine, et avec Baudelaire, il y a deux ou trois Baudelaire qui sont inchantables parce qu'ils sont ici-bas, ou je ne sais pas quoi. Ils sont vraiment mauvais. Mais il y a des textes qui sont simplement pauvres, comme, je ne sais pas, Au bord de l'eau de Fauré, par exemple. C'est pas un bon texte, mais c'est si charmant quand on le chante avec fraîcheur et bon goût, eh bien, il passe très bien.
S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'il glisse un nuage en l'espace, à l'horizon s'il fume un toit de chaume, le voir fumer aux alentours si quelques fleurs embaument, s'en embaumer, entendre au pied du sol où l'on murmure, l'on murmure, ne pas sentir tant que ce rêve dure, le temps durer, mais n'apportons de passion profonde qu'à s'adorer sans nul souci des querelles du monde, les ignorer et seuls tous deux devant tout ce qui lasse, sans se lasser, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer. Sentir l'amour devant tout ce qui passe,
au piano Marcel Maradour, chantait la mélodie de Fauré Au bord de l'eau.
Ce que je voulais vous dire à propos du Parfum impérissable, c'est la mélodie que j'ai choisie à un de mes cours. Tout à coup, il m'est venu l'idée que si tout le monde apprenait la même, j'arriverais à faire un cours entier sur une mélodie. Alors, je leur ai demandé de polycopier, ce qui est strictement interdit par la Société des auteurs. Alors, je leur ai dit, ceux qui la chantent en haut et ceux qui la chantent en bas, faites ça. j'ai demandé à une fille qui parlait assez bien le français de la traduire. J'aurais dit, ne la traduisez pas pour chanter, traduisez-la pour comprendre, pour que le texte ressorte ce qu'elle a fait. Et le lendemain, à mon cours, ou deux jours après, ils sont revenus avec cette mélodie. Alors j'ai d'abord lu en français, puis je l'ai lu en allemand. Et quand tout le monde, j'étais bien sûr que tout le monde avait compris, j'ai demandé à une personne, j'ai dit, venez, vous, la chanter. Et alors, je l'ai décortiqué, j'ai chanté plus d'une mesure sans le dire, halte là, pensez à ceci, pensez à l'atmosphère dans laquelle vous êtes, pensez à la couleur de la parole. Ici, vous avez une chose qui est un peu plus robuste, je veux vous voir grandir d'un centimètre. Ici, il y a une chose plus intime, je veux vous voir... Vous, n'est-ce pas ? Des choses qui, si je les leur montre, je dis, je vais exagérer pour que vous le compreniez. Ne faites pas comme moi, mais que ça vous serve de vous savez, comme les enfants qui poussent leur pain avec un petit instrument, parce qu'ils ne savent pas encore manger la fourchette. Mais c'est ça. Et après ça, je les ai arrêtés tout le temps. Parce qu'il y avait une virgule qui n'était pas bien, parce qu'il y avait un E muet qui était trop prononcé, etc. Et puis, une fois que c'était presque fini, sont entrés trois élèves. Et ces trois élèves sont arrivés, ils n'avaient pas entendu. Alors je dis, ben, on va faire quelque chose maintenant. Ils ne savent rien de ça. Je vais maintenant demander à une de ces demoiselles qui vient d'entrer de venir chanter cette mélodie. Et celle qui l'a chantée en premier, à qui j'ai fait toutes ces remarques, va lui donner la leçon devant moi. Et c'est ce qu'on a fait, et ça les a beaucoup intéressés. C'est la première fois que je le fais, ça m'est venu comme ça, et je vais certainement continuer à le faire quelquefois.
Le parfum impérissable de forêt. Et c'est Monsieur Claude Dormois.
Quand la fleur du soleil, la rose de
et maintenant, si j'étais vous, je ferais une petite césure.
Quand la fleur du soleil,
et puis du soleil, il faut que ce soleil, qu'on le voit.
Quand la fleur du soleil, la rose de l'or. Quand la fleur du soleil, la rose de l'or, de son âme odorante a rempli goutte à goutte.
Je crois que vous pourriez faire plus avec odorante aussi. Vous pourriez faire... C'est un tout petit peu... Ce que vous faites est un tout petit peu... Comme si vous n'aviez pas senti cette odeur.
Oui.
Vous comprenez ? Quand la fleur... Encore une fois.
Quand la fleur du soleil, la rose de l'or, de son âme odorante a rempli goutte à goutte la fiole d'argile ou de cristal.
Et puis, après argile, je resterai aussi un instant pour dire ou de, ou, vous comprenez, chaque fois. Et puis, la fleur, il faut que ce FL, c'est une fleur.
Quand la fleur du soleil, la rose de l'or, de son âme odorante a rempli goutte à goutte la fiole d'argile ou de cristal,
cristal,
de cristal ou d'or, sur le sable qui brille, on peut les pendre tout.
J'ai l'air de vous faire faire des choses trop précieuses, mais je crois que si je vous le dis un peu trop, vous le ferez un peu moins, et alors ce sera juste.
Il y a une chose qui m'a toujours frappé quand je vous entendais chanter des mélodies françaises, c'était l'extraordinaire simplicité.
Ça m'est venu pour moi naturellement parce que je n'aime pas l'emphase, et je trouve que... vous comprenez, c'est comme les gens qui ont qui parlent d'une façon... parce qu'ils pensent que... Ça les pose. Mais non, il faut toujours être simple.
Est-ce que vous pensez que le français est une mauvaise langue à
chanter ? Pas du tout. Elle est mauvaise pour les gens qui la chantent d'une façon justement artificielle. Non, 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 c'est pas du tout une mauvaise langue.
Vous pensez que c'est un faux problème, la question de l'accent tonique en français?
Je crois. C'est-à-dire qu'on est obligé de défigurer un petit peu l'accent tonique en français, voyons, prenant le discours. Eh bien, au fond, si on vous demandait où est la syllabe forte, c'est discours. Mais si discours est écrit avec la barre de mesure entre 10 et court, il faudra un discours. Comprenez ? Voilà où est la différence entre le français chanté et le français parlé. Mais quand les gens l'ont compris, ils n'ont qu'à le faire. Souvent, ils ne le font pas.
Que m'importe que la fronde de Portugal ait le visage rond ou bien ovale et une cicatrice sous le sein droit, qu'elle ait l'air d'une fille de roi ou d'une gardeuse droit de ma porte. Peu me choque que la princesse de Trébizonde soit rousse, châtaine ou blonde, qu'elle ait l'humour prompt et le verbe haut. Peu me choque.
Le bachelier de Salamanque de Roussel au piano Geoffrey Parsons. Ukeno Dinulipati.
Je n'ai jamais joué avec lui en public, mais nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et puis alors j'ai des mélodies de lui qui m'a fait chanter. Je me souviens très bien le jour où il avait été invité dans une maison de campagne dans les environs de Genève et on leur avait prêté pour quelques semaines. Et Ansermet est venu un soir et il nous a dit, ah ben, il y a quatre mélodies que il disait toujours mes merlodies que j'ai fait, parce qu'il était très humble, vous savez, il disait toujours mais ce n'est rien, c'est pas du blabla musique, mais enfin j'ai des petites mélodies que je voudrais vous montrer, etc. Et alors on s'est mis au piano et on a déchiffré ces mélodies que j'ai chanté beaucoup.
T'es pas enfant de mon silence. Lentement, lentement placé vers le lit de ma vigilance, procède muet et glacé. Son doute est pas retenu.
Et
tes lèvres avancées, tu prépares pour la baiser à l'habitant de mes pensées, la nourriture d'un baiser. Ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas.
Les Pas, poème de Paul Valéry, musique de Dinou Lipati. Un enregistrement radio de 1947. Hugues Queneau était accompagné par Madeleine Lipati.
Est-ce que vous pensez que la présence d'un public altère quelque chose ou non, dans ce cas-là?
Ça altère quelque chose chez moi, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de tâcher d'être un peu acteur à ce moment-là. Vous comprenez? Je ne crois pas que ce soit un mal pour les élèves, mais on ne peut pas fragmenter assez. J'aime mieux donner des leçons qui profitent à l'élève plus, je crois, s'il n'y a pas trop de gens autour. Et je sais que quand Mme Schwarzkopf ou surtout les cours autrefois de Callas, quand elle a donné des cours à la... c'était des numéros. Mais elle les a très bien donnés. Seulement, les gens étaient venus pour voir manger le dompteur.
Ukweno, Darius Milhaud.
Et Milhaud, je l'ai, par exemple, visité à Mills College en Californie, et j'ai plusieurs fois fait de sa musique, chanté des cantates et des choses de lui, et je l'ai vu, je chante beaucoup ces Léo Latil qui sont parmi les plus belles mélodies françaises qui existent. C'est des choses qu'il a faites en 1914 quand il était très jeune, et c'est superbe, superbe.
L'hiver souffle, il siffle dans la cheminée et sous les portes et m'entoure de froid. Dehors, il doit secouer les arbres follement, s'élancer dans les rues, contournant les maisons, et bondir dans les campagnes, au-dessus des collines, et des bruits qu'elle porte. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Je suis mouvementé et soulevé par endroits, laissant voir le ciel d'un bleu nocturne s'étendre au-dessus des sombres campagnes. Et tout le ciel abaissé se meut sur la terre.
m'importe, que m'importe que vous m'ayez abandonné, ô trop heureuse, trop joyeuse et trop douce, que m'importe, car si votre amour adoucissait mon cœur ce soir, je ne sentirais pas mon âme épouvantée, emportée sur les ailes du vent dont les
je les chante beaucoup et je vais encore en chanter à Royaumont, moi, deux.
Mon boulevard de Clichy, ma place Pigalle. Quand je suis sur la rive gauche, je me sens toujours un peu comme un touriste. Émerveillé, certes, mais touriste. J'aime mon modeste appartement où j'habite depuis 1923. Dès qu'il y a un rayon de soleil à Paris, il est pour moi.
Je l'aime beaucoup et j'aime bien sa femme. Et nous avons fait ensemble des choses assez amusantes. Il y a eu des spectacles Satie pendant un temps, arrangés par Bathory, justement, au Théâtre des Ambassadeurs avant la guerre. Et on avait donné Jack in the Box, on avait donné le Baron Méduse, comment est-ce qu'il s'appelle ?
Le piège de Méduse.
Le piège de Méduse, oui. Et des petites choses de ce genre-là, en scène, on avait joué. Et on s'était beaucoup amusés. Il était bon, il était brave et gentil.
Satie a appelé Socrate drame symphonique. Il y a trois parties. La première est le portrait de Socrate tiré du banquet de Platon. On raconte que Alcibiade, qui fait le portrait de Socrate dans cette partie, n'était pas invité au banquet. Il est arrivé avec des amis, tous un peu ivres, et quand il a vu Socrate, pour se faire pardonner cette entrée intempestive, il a décidé de faire le portrait de Socrate.
Les
Nous avons choisi le portrait de Socrate, extrait de l'enregistrement intégral du Socrate de Satie que vous avez réalisé avec Geoffrey Parsons et qui a obtenu le Grand Prix du disque de Montreux. Tout Socrate en disque, mais en concert.
Ce que je ne ferai plus jamais parce que c'est beaucoup trop. N'est-ce pas, ça intéresse les gens. J'ai un concert prochainement, nouveau avec Brigitte Meyer qui voudrait le faire, mais je dis seulement la mort, pas le reste. C'est une chose qui est tellement statique, ça a beau être très beau dans l'esprit, ça, les gens commencent à un peu s'impatienter, vous savez, c'est très neutre, en somme, sauf le texte, mais la musique est très neutre.
Autrement dit, vous ne me diriez plus aujourd'hui ce que vous m'avez dit il y a quelques années.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit ceci, j'ai eu un nombre incalculable d'élèves, il ne m'en est rien resté, à eux non plus, j'en suis sûr.
Eh bien, c'était parfaitement vrai au moment où je vous l'ai dit, mais à ce moment-là, je commençais tout juste à donner quelques cours d'interprétation, et depuis ça, je suis persuadé que parce que je vois que ça marche très bien, que les gens viennent me demander tout le temps, et que c'est ça que j'étais destiné à faire, et pas à faire chanter des gens sur des exercices ou sur des vocalises. Vous comprenez ?
Diane. Hélène, lune de beau métal, qui reflète vers nous par ta face déserte, dont l'immortel.
Toujours agité.
Diane, c'est l'aîné extrait de l'horizon chimérique de Gabriel Fauré, interprété par Hugues Queneau avec Martin Hissep au piano dans un enregistrement de 1973. Ainsi s'achève cet entretien que Rémy Stricker et Jérôme Spiquet avaient réalisé en 1982 au domicile du ténor Hugues Queneau. Cette archive est disponible à la réécoute sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Béatrice Trichet avec la collaboration des documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.